manifestation.
Hermano.
Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonjour. Bonjour. Non, problème technique, vous m'entendez ? Allez-y.
Oui, on t'entend.
Oui, ouais. Vous m'entendez. Formidable. Désolé, c'est alors le...
Le maître de cérémonie n'est pas là, mais malgré tout, les problèmes techniques subsistent.
Exactement. Oui, ce sera le générique était mensonger, parce qu'effectivement, Hassan Kerim ne sera pas avec nous ce soir. Il est retenu ailleurs, mais je suis en studio avec Thomas Doré. Bonjour Thomas.
Salut Victor, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va très bien.
Ouais, pas
Thomas
de soucis.
Qui nous fera un petit point sur l'actualité locale et sur la rédaction pop en fin d'émission. Et nous avons Steven. Bonjour Steven.
Salut tout le monde, salut à tous et à toutes.
Ouais, tu peux peut-être baisser un petit peu la musique, on entendra peut-être un peu mieux ta voix. Ouais,
ouais, je pense que ça sera bien.
Ouais, je pense que pour les auditeurs c'est mieux. Ouais. Ouais. Bien joué. Voilà, il maîtrise hein, la nouvelle console en fin de compte.
Ah bah
voilà.
Oui.
Ça, quand... Faut avoir fait un bac plus 5 ici quoi, pour la maîtrise de la table de mixage. C'est cool.
Voilà, donc Steven, tu vas nous parler de Martinique et tu vas nous parler aussi de la diffusion d'un film que tu as vu ce week-end.
C'est ça, exactement. Donc on parlera de la vie chère en Martinique et après je vous parlerai de la venue de Aymeric Caron, député insoumis, qui est venu pour projeter un film qui s'appelle Gaza depuis le 7 octobre, qui revient sur 8 mois de conflit. Seulement 8 mois, il n'a pas pu faire plus, hein, étant donné qu'à un moment, il faut sortir le film, malgré le conflit qui continue. Donc voilà, ce sera mon deuxième sujet.
D'accord, très bien. Alors, on s'enchaîne ça tout de suite après un petit jingle.
Sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Alors, du coup, Steven, tu vas nous parler de Martinique.
Oui, et avant tout, je voulais te remercier, Hassan, hein, pour ta fidélité au poste. Hein, et je voudrais préciser que j'adore ton nouveau look. Hein, en plus, pour une fois, il n'y a pas de problème technique hein, donc, dans cette émission. Donc, franchement, un gros respect à toi.
Pas de soucis, mec.
Mais t'es au courant quand même que c'est pas Hassan.
Bon, et ben, il se passe quoi en Martinique hein? Il veut quoi le Retailleau de mes couilles hein? Qui lui a demandé son avis, lui encore hein? Il me semble qu'il est ministre de l'Intérieur, il n'est plus ministre de l'Outre-mer. Alors, de quoi il se mêle? Le gars, il bande à chaque fois qu'il parle d'ordre. Ça me casse les couilles. J'en peux plus de ce mec. Hein, et il va presque finir par me faire regretter Moussa. J'ai dit presque.
Attends. Steven, calme-toi. Tu devrais nous parler d'abord de la révolte martiniquaise.
Oh, oui.
Martiniquaise.
T'as raison. Merci Hassan hein, de me recentrer. Heureusement que t'es là. Mais oui, il se passe quoi en Martinique alors? C'est quoi ce délire de faire vivre les gens dans la misère et d'envoyer les CRS quand ils sont plus d'accord avec ça? Parce que cela vous a pas échappé, hein, mais depuis plus d'un mois, la Martinique manifeste contre la vie chère. Des révoltes qui ressemblent beaucoup à celles de 2009, hein, si vous avez la référence. La révolte Kanaki, les émeutes en Martinique et en Guadeloupe ne sont que les énièmes démonstrations du système colonial français qui arrive à bout de souffle. Parce que oui, n'en déplaise aux spécialistes coloniaux de CNews, hein, la France a une histoire coloniale. Petit cours d'histoire hein, pour les couillons de fachos hein, qui auraient loupé l'école. Aux Antilles, les autochtones amérindiens, qu'on appelait les Arawaks, ont été exterminés dès le début de la colonisation au XVIIe siècle et remplacés par les esclaves massivement déportés d'Afrique. Aujourd'hui, les afro-descendants, qui sont toujours confrontés à la domination des béquets, hein, ces béquets ce sont les héritiers des propriétaires d'esclaves, hein, qui ne représentent d'ailleurs qu'un pour cent de la population, et ben ces gros bâtards là, ils possèdent la plus grande partie des terres, tout en contrôlant la plupart des circuits économiques d'importation et d'exportation dans la grande tradition de leurs ancêtres et en entretenant la dépendance plutôt que l'autonomie, notamment alimentaire. Et donc on y vient, les manifestations qui ont lieu en ce moment résultent surtout d'un différentiel de prix entre la Martinique et la France hexagonale, une différence de 14% en 2022 et de 40% pour les seuls produits alimentaires, d'après une étude de l'INSEE publiée en juillet 2023. Ces surcoûts sont d'autant plus insupportables que près de 27% des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté, que l'importation représente 80% de l'alimentation martiniquaise et que les denrées qu'ils reçoivent ne sont pas toutes de grande fraîcheur, sachant que les sols martiniquais sont hautement pollués. Je vous renvoie à un article qu'on avait fait sur la Redac Pop sur la chlordécone. En gros, c'est comme si on achetait un yaourt, on vous obligeait à le payer cher, un produit moins bon, le tout sans en avoir les moyens. Et si tu veux cultiver près de chez toi, bah, y a un gros connard qui vient chier sur ton plan.
Quelles sont les solutions pour sortir de cette situation ?
Eh ben, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens exige un alignement sur l'hexagone des prix des produits alimentaires, qui sont, je le redis, 40% plus chers en Martinique. Ce que la France refuse de faire. Bah, résultat, bah, ça gueule. Hein. Bah oui, logique. Alors, on en a eu des tentatives de réduction des prix. Hein. On peut citer le bouclier qualité-prix instauré en 2012, mais ça reste des solutions trop à la marge. En ce moment, des négociations ont lieu entre les acteurs privés et publics. On parle de la suppression de l'octroi de mer.
L'octroi de mer, mais qu'est-ce donc que cela ?
Ah, Hassan, j'adore parce que tu poses toujours les bonnes questions. Franchement, merci d'être là.
Ouais, merci Hassan.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est un prélèvement mis en place en 1670. Oh ! Surprise ! Un héritage de la période coloniale. À l'origine, cette taxe s'imposait sur tous les produits arrivant de la mer, par la mer. En découle directement des droits d'octroi perçus à l'entrée des villes sous l'Ancien Régime. À partir du 19e siècle, l'octroi des portes de mer constitue une recette ordinaire du budget des communes à la Martinique depuis 1819, avant d'être étendu à la Guadeloupe en 1825 et aux autres territoires ultramarins. Bon, elles ont perduré après l'abolition de l'esclavage. Hein. Bon, on rétorquera sûrement. Et alors ? Bah oui, hein, c'est vrai. Hein, la France a indemnisé les anciens propriétaires d'esclaves hein, plutôt que les personnes esclavagisées. Donc bon, bah je vois pas une puterie de plus quoi. En fait, hein. j'ai envie de dire. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la départementalisation des territoires d'outre-mer, la taxe aurait logiquement dû disparaître. Mais elle a été maintenue par des dérogations pour pallier le manque de ressources locales. Cette taxe spécifique aux territoires ultramarins contribue aujourd'hui au financement des collectivités en taxant les biens importés, y compris de France hexagonale, mais aussi les produits produits sur place, avec certes un taux moins élevé. Selon les études et les rapports cités par la Cour des comptes, l'octroi de mer contribuerait à hauteur de 6 à 10% au niveau général des prix et sa suppression entraînerait une baisse des prix de 4,6 à 7% en moyenne pour l'ensemble des territoires ultramarins. Mais bon, sa suppression ne paraît pas une évidence pour tout le monde, visiblement.
Comment tu analyses la situation ?
Je te remercie encore une fois pour cette question bien éclairée, Hassan. Selon moi, ces révoltes sont le symptôme d'une société en souffrance, étouffée par une arrogance coloniale conjuguée à une vacuité de propositions politiques qui ne sortent jamais du cadre colonial imposé. Ces actes traduisent une colère légitime qui ne demande qu'à exploser, une violence détox au bon goût de décolonisation, comme j'aime à l'appeler. À quoi ils s'attendaient en même temps hein. On a toutes les conditions pour que surgissent des actions de contestation, que les colons s'empressent de qualifier d'émeutes pour les condamner. Chacun y va de sa bonne voie, à défaut d'y aller de sa bonne foi, pour exprimer haut et fort son engagement pour parvenir à des solutions pérennes. Mais le bâtard de Rotaillot, là, de ses morts, là, il a donné le ton, malgré tout. Hein. Encore une fois, il a expliqué la position de la France, l'imposition d'un ordre colonial par la violence. Depuis le 18 septembre, un couvre-feu a été instauré par le préfet de Martinique. On recense plusieurs actes de violence injustifiés envers les manifestants. Hein, ces violences invisibles, l'injustice économique, le déni de justice et l'ignorance culturelle imposée nourrissent les révoltes d'aujourd'hui. La colère qui gronde en Martinique n'est pas un simple débordement, mais plutôt l'expression d'un peuple qui refuse de continuer à vivre dans l'ombre de l'Hexagone. Cette colère n'est pas nouvelle, comme je vous disais, et je vous invite pour ça à regarder un film qui a été republié il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux de Mediapart, un film qui s'appelle 44 jours, qui a été réalisé par Martine Delumeau, qui revient sur les événements qui ont embrasé la Guadeloupe en 2009, une démonstration que classe et race sont toujours ancrées dans le rapport entre la France hexagonale et les territoires d'outre-mer.
Pour clôturer ta... tu avais quelque chose ?
Non, pas du tout, non.
Pour clôturer ta chronique, tu as décidé de choisir un morceau de Kazé,
oui,
qui s'appelle Chez moi. On s'écoute ça tout de suite.
Charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. connais-tu le morne et la ravine? Le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellier et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine? Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Emile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole, et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on prie avec la Bible, fête le carnaval comme toute la Caraïbe, que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable? Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent case en tôle tous les vêtements? Sais-tu, sais-tu, comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne? Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime? Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies? Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
Chez moi, c'est ça?
C'est ça, Cazé qui est guadeloupéenne, je tenais à le préciser. Donc c'est pour ça que quand elle parle de chez elle, elle parle des Antilles. Et donc voilà, je trouvais que ça collait bien un petit peu à l'ambiance qu'il y a là-bas actuellement et comment on peut ressentir ça vu en tant qu'Antillais en France hexagonale.
Ouais, c'est marrant, enfin, du coup ça me fait penser à... Je savais pas moi que le blanc était la couleur du deuil à la Martinique, mais c'est pareil, c'est le cas au Japon aussi.
Oui.
Donc c'est pour ça, ça m'a fait penser à ça.
Et je voulais repréciser le film dont je vous parlais, donc qui s'appelle 44 jours. Il a été rediffusé dans le cadre d'un festival international du documentaire Amazonie-Caraïbes, donc FIFAC, qui a débuté le 8 octobre. Et donc voilà, un film qui date de 2023. Allez le voir, franchement, il vaut le coup. C'est un film documentaire qui vaut le coup, en fait. Et pareil, si vous voulez un petit peu vous intéresser à ce qui se passe un peu en Martinique en ce moment, je vous conseille un article de France Info qui s'appelle « Vie chère Outre-mer, manque de volonté et de transparence ?»
Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Steven. On va se mettre un petit jingle et après on passe à l'actualité locale avec Thomas. Tu le sens ou pas trop ?
Oui. Bah, j'ai pas eu trop le temps de le préparer, mais très honnêtement, voilà, on va le faire en freestyle comme on a l'habitude ici. Ça va aller.
Abattant rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Oui.
Abattant rompu.
Et Radio Campus Tour.
Oui. Et Radio Campus Tour. Faisons de l'écho. Allons-y. Ouais, récapitulatif de l'actu de la semaine. Vous n'avez pas forcément l'habitude d'écouter ça dans la radio, mais on s'est dit que ça pourrait être bien quand même de faire un peu le point sur l'actu locale grâce à nos amis de la République du Centre. J'ai fait un peu le tour des derniers journaux qui sont parus au cours de la semaine. Et parmi les grands sujets qui ont pu être évoqués, on parle notamment de la perspective à assez long terme, mais qui va quand même arriver assez rapidement, d'une très forte perturbation de la ligne SNCF Paris-Orléans-Limoges-Toulouse à partir d'août 2025.
D'accord, ah oui, ouais. C'est bientôt.
Ouais, c'est ça, dans la perspective de travaux de très grande envergure, des travaux fléchés à 133 millions d'euros quand même. Ouais. Et donc du coup, aucun train ne circulera à partir de cette date d'août 2025 entre 9h30 et 17h en semaine. Et même dès avril, il y aura des travaux préparatoires et les trains arrêteront de circuler entre 10h et 15h en semaine. Ce qui va forcément, on s'en doute, impacter la vie de très nombreuses personnes qui doivent faire des allers-retours entre Orléans et Paris pour le travail. Alors, pour contrer cela, la SNCF prévoit davantage de trains avant 9h30 et après 17h, fort heureusement. Mais on connaît aussi de nombreuses personnes qui sont obligées, ou en tout cas pour lesquelles ça arrangerait bien de prendre le train plutôt en milieu de matinée ou en fin de matinée. Et pour celles-là, eh bien, je ne peux que leur souhaiter d'ores et déjà un bon courage. Voilà pour en tout cas cette perspective qui va se présenter donc d'ici quelques mois maintenant, les prochaines vacances d'été. Sinon, je fais un petit tour aussi dans l'est du Loiret. Big up aux Giennois et à Gien, là où j'ai travaillé pendant 3 ans
natale,
au sein
presque.
De l'agence locale.
Favoritisme, ça.
Exactement, ouais, tout à fait, je l'assume clairement. Non, mais on aime bien parler un peu des quartiers populaires, des problématiques liées aux quartiers. Pour moi, c'était important aussi de relater cela. Les habitants du quartier prioritaire des Champs de la Ville ont pesté dernièrement contre le manque de lignes de bus dans leur secteur. Cela au cours d'une réunion de quartier qui s'était tenue avec le maire Francis Kamal. Une habitante a notamment râlé dans l'article contre l'arrêt de la circulation à partir de 18h. On parle notamment en fait de problématiques pour les personnes âgées qui ont besoin d'être transportées au niveau du centre-ville de Gien. Et c'est vrai que, mine de rien, ces petits désagréments peuvent parfois être insurmontables pour certaines parties de la population. Donc on pense notamment aux plus âgés. C'est ça, oui. Big up, monsieur le retraité. Donc le maire rappelle quand même malgré tout que 2 lignes et 3 chauffeurs seulement sont mis en place et précise, je cite, que les moyens ne sont pas infinis pour une ville de 13 000 habitants.
Oui,
voilà.
C'est un peu léger comme
défense. Ouais, c'est un peu léger, mais bon, c'est un argument en tout cas qui a été lancé. Petit rappel également sur le mode de transport qui est utilisé. Ce sont des bus de taille assez réduite. C'est un transport gratuit, précisons-le. C'est géré en régie, notamment. Pour une fois, c'est pas une délégation de service public, soulignons-le quand même. Voilà. Ouais. Donc il y a quand même des points positifs à souligner. Mais voilà, les habitants de ce quartier prioritaire des Champs de la Ville, ont élevé quand même la voix dernièrement contre ce manque de train et de bus. Ouais, je parlais de train tout à l'heure. Donc on espère que ça, pour eux, peut-être que des solutions seront trouvées à court terme ou à moyen terme. En ruralité toujours, on a le maire du village d'Huisseau-sur-Mauve qui s'est récemment illustré par une opération retour à l'envoyeur en ramenant les déchets sauvages d'un habitant devant son portail. Oui.
Ah ça j'adore.
Et alors c'est pas, il est loin d'être le premier, hein, le seul de procéder de la sorte. Et à le faire faire savoir d'ailleurs par ses réseaux sociaux. On avait eu le maire notamment de Saint-Père-sur-Loire qui s'était illustré il y a quelques temps justement par une action sur les réseaux sociaux. Les maires se justifient aussi de ces décisions en évoquant notamment le coût important de l'enlèvement de ces ordures pour des petites communes qui n'ont qu'un seul agent technique à disposition et que c'est rapidement en fait compliqué pour eux de traiter cela. Bon, maintenant, est-ce que ça justifie d'employer des méthodes de ce type ? À vous de trancher pour le coup, mais quand on rencontre ces maires,
je suis bien pour le principe des pollueurs-payeurs. En fait.
Quand on rencontre ces maires, en tout cas, on sent une espèce de lassitude entre guillemets par rapport à cette situation. Je sais pas ce que t'en penses toi, Steven.
Voilà.
Alors. Joker.
Non mais c'est bien. C'est bien. Il faut rejeter la merde sur ceux qui la font.
Ouais. Bah écoute, ouais.
J'aurais que ça à dire.
Sur le genre, moi c'est pareil, je serais plutôt de ton avis là pour le coup, Victor, dans le sens où, à un moment donné, il y a des choses dans lesquelles tu peux ne pas être responsable, mais là, à un moment donné, il s'agit simplement de faire preuve de civilité, de propreté, quoi. Je ne sais pas.
Je pense que c'est plus la manifestation d'un agacement que réellement.
Ils ont pas vocation. Enfin, je veux dire, ce sont des maires de petites communes, donc ils n'ont pas pour ambition, si vous voulez, de faire des carrières politiques et de se faire bien voir en fait par rapport à cela. C'est vraiment la manifestation d'une lassitude de se dire bon. Est-ce que ça peut éventuellement bouger ou faire bouger les choses que je mette ça un peu sur mes réseaux sociaux et que je parle de cela? Bon, voilà.
Pour que ce soit eu pour 10 personnes.
Oui.
L'action du maire de Saint-Père-sur-Loire, par exemple, n'avait pas été vue que par 10 personnes parce que tu te doutes bien que nous, médias, nous relayons un peu ce genre de cas. Enfin, je parle de la presse quotidienne régionale. La presse quotidienne régionale, oui, on relaie un peu cela parce que c'est des informations sur nos territoires et effectivement, les maires, je pense, comptent là-dessus sur cette vision. Visibilité en fait. Je pense que c'est.
Mais je sais que c'est un vrai sujet, notamment dans les communes autour de Paris, parce que Paris est a besoin d'une poubelle à ciel ouvert qui s'est ouverte dans le sud de la capitale, je crois.
Ouais.
Dans la commune de, le nom m'échappe là, mais il y avait un maire qui s'était plaint qu'effectivement il y avait des décharges en plein air de machines à laver, de frigos, de cartes de visite, d'établissements, de bureaux. Enfin vraiment c'était et il ne savait pas quoi faire parce que c'était impossible. Possible,
Il faut qu'il fasse comme tout le monde, il envoie ça dans les pays pauvres.
Steven.
Non, mais voilà, je comprends pas.
Bien sûr.
C'est une blague,
je pense qu'on l'avait compris à tonton, mais bon, c'est bien de le repréciser quand même. Un petit mot quand même aussi rapidement sur la tempête Kirk, il n'y a pas grand chose à dire sur le Loiret parce qu'on craignait vraiment de gros dégâts et finalement la tempête est passée à partir de la nuit de mercredi sans grand dommage, occasionnant seulement à peu près 70 interventions, dont 54 menées par les pompiers du Loiret dans 36 communes et principalement pour des inondations de locaux, donc plus de peur que de mal sur cette question de la tempête.
Tant mieux.
Ouais, vous avez peut-être connu des. Non, vous n'avez pas dans votre entourage, ça va, des gens qui ont subi cela pour l'instant.
Non, pas spécialement.
Ok, eh bien tant mieux pour vous dans ce cas-là, messieurs.
C'est gentil.
Un petit point également sur un sujet que j'ai trouvé plutôt sympa également à Amilly, près de Montargis. L'unité de pédopsychiatrie qui met en place des séances de thérapie systémique avec un berger malinois qui fait partie du dispositif, un berger qui s'appelle Mulan et qui accompagne notamment les enfants victimes de violences intrafamiliales. On considère souvent que l'utilisation d'animaux peut aider les enfants à se reconstruire dans ce genre de situation.
La zoothérapie, ça s'appelle.
La zoothérapie, exactement. Donc ils expliquent notamment que l'animal travaille sur l'aspect émotionnel en complément des interventions qui sont faites évidemment par le corps médical. Ils expliquent notamment que Mulan est capable de détecter les émotions communiquées ou non communiquées et qu'il lui arrive de passer 10 minutes à côté d'un ado car elle a senti une émotion que le corps médical lui-même n'a pas détectée. Donc ce qui peut être vraiment aussi très intéressant pour des actions en profondeur ou pour repérer évidemment des choses.
Ouais, mais les animaux là-dessus ont vraiment un sens. Enfin, je sais que par exemple, dans les dans les nursing homes américains, ils utilisent beaucoup des chats pour savoir quand quelqu'un va décéder, parce qu'en fait, les chats se mettent, du coup, ils s'assoient sur les personnes qui vont mourir dans les quelques jours qui viennent, et alors que c'est pas du tout détectable par des moyens humains. Et du coup, en fait, on utilise des chats comme ça qu'on laisse se balader librement dans les nursing homes, et dès qu'ils s'arrêtent sur quelqu'un, on prévient la famille en mode bon bah manifestement le chat a choisi, donc il reste sans doute que très peu de temps à vivre à votre parent.
Alors moi, ça aussi dans la justice, j'ai appris qu'on utilisait aussi des chiens. Oui, que pour
Pour les enfants aussi, c'est pas non pas forcément. Alors,
pas forcément que pour les enfants, mais par exemple au tribunal d'Orléans, on a des chiens.
Ah bon ?
Oui.
C'est des supports émotionnels pour les juristes, c'est ça ?
Alors, je sais pas si c'est pour les juristes, je pense c'est plus pour les personnes qui viennent, mais...
Non, on devrait y penser hein, quand même aussi.
Oui,
hein.
Je pense, la fonction publique va mal.
Ouais, ça, on l'avait bien compris. Enfin, en tout cas, toujours est-il que le dispositif intéresse bien au-delà de nos murs, puisque les thérapeutes, d'après cet article de la REP, prendront la direction de Bordeaux le 28 octobre pour présenter ce dispositif. Avec notamment l'Association européenne de la thérapie familiale qui organisera un congrès intitulé « Violence sexuelle intrafamiliale, sortir ensemble du déni ». Voilà pour cet article donc en lien avec le centre médico-psychologique d'Amilly. En parlant également de santé, la première année a aussi été célébrée pour le CHU d'Orléans, centre hospitalier.
On en a parlé beaucoup ici de l'ouverture de cette filière de médecine justement au sein même de la ville d'Orléans, et évidemment du projet alternatif qui avait été proposé par Serge Grouard d'ouvrir
Zagreb.
Voilà le projet Zagreb. Voilà, on en a beaucoup parlé ici, donc. C'est bien d'avoir des suites de retour.
Oui, eh bien écoute, toujours est-il que ce changement, cette première année, n'est pas pour l'instant un bouleversement dans la manière dont les soins s'exécutent au CHU, anciennement CHRO, donc Centre Hospitalier Régional d'Orléans. Voilà, clairement, en fait, dans cet article de la République du Centre, on précise bien que devenir un CHU n'a pas eu l'effet d'un coup de baguette magique. La partie universitaire se met en place petit à petit, c'est ce qu'indique Dimitri Crozet dans son papier. Olivier Boyer, notamment, qui est directeur général de l'hôpital, indique que soigner, chercher et enseigner, ce sont trois missions qui se nourrissent les unes les autres. Alors après, pour ce qui est des chiffres, notamment, on indique que l'hôpital d'Orléans a Orléans aura pour objectif, aura pour objectif de former près de 200 étudiants en médecine par an, à terme en tout cas, une fois que cette formation de médecine sera installée. On rappelle que normalement elle devrait s'installer complètement d'ici 2027 au sein des actuels locaux de droit économie gestion, et que ces mêmes locaux de droit économie gestion seront transférés sur le site Madeleine. Près des Carmes, rue des Carmes, exactement. Donc voilà, on indique notamment dans ce papier aussi, dans cette double page assez intéressante, que bien les défis sont très nombreux quand même pour le CHU, parce que même si les locaux ont été assez récemment rénovés de fond en comble, eh bien il faut encore pouvoir les remplir, ouvrir des lits notamment supplémentaires qui pour l'instant n'ont pas été ouverts, que il y a aussi un déficit qui était estimé à 38 millions d'euros l'année dernière, qui doit être aussi résorbé. On précise également que dans les services, beaucoup de disciplines sont actuellement en difficulté, mais qu'on espère malgré tout que le fait de devenir un centre universitaire permette d'amener une certaine attractivité au sein de cet établissement. On parle notamment d'un ophtalmologue qui s'est installé parce que justement le CHRO est devenu un CHU, par exemple. L'idée aussi, c'est de travailler pour le territoire. Notamment, on indique que plusieurs établissements sont rattachés au CHU, dont l'hôpital de Pithiviers et celui de Neuville-aux-Bois, qui vont fusionner au 1er janvier 2025. Voilà, grosso modo pour le résumé. Bref, on attend de voir peu à peu s'installer. Après ce premier anniversaire du CHU, on a bien vu que les choses n'ont pas encore totalement bougé, ne se sont pas révolutionnées, mais on espère que ça va impulser une dynamique positive pour le territoire. Et on rappelle quand même que si le CHRO est devenu un CHU, c'est aussi parce qu'il y a eu une mobilisation forte de l'intégralité aussi quasiment des personnalités politiques du territoire. C'est-à-dire que là, pour le coup, droite et gauche confondus, tout le monde, on essayait enfin de tirer dans le même sens.
Syndical aussi.
Et syndical, bien évidemment, tu fais bien de le préciser. Mais voilà, tout le monde a essayé de tirer dans le même sens après des années et des années où on se tirait plutôt dans les pattes. Hein.
D'accord, ok. Voilà. Oui, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Pavlos Fissas ? Vous nuisez à votre crédibilité.
Quelle mauvaise culture ! Vas-y, dis.
Pavlos Fissas est un rappeur antifasciste grec, né le 10 avril 1979 et assassiné le 18 octobre 2013 à Kerasina, une banlieue d'Athènes. Il était connu sous le nom de Kylapé. Je vous permets de faire ça parce que du coup, aujourd'hui marque le 22e... Non, quasiment les 10 ans de l'anniversaire de sa mort. Enfin, le 18 septembre, du coup. Et du coup, je me suis dit qu'on allait s'écouter un petit peu du rap antifasciste grec, que ça changerait un petit peu.
Eh ben, allons-y, ouais.
Vraiment, bah oui.
Ouais.
Allez, on se met ça.
Ah !
Sur une instru de Dr. Dre.
Ah bah oui. Que la paix, gâteau salé, t'as ce mot. Ξέρεις πως πάει. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκ τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκ τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια. Άσε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους κλίκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι απ' την πίτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δεν με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δεν με ενοχλείς, δεν σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού. Από το κανετού μέχρι και στα live των κου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των βιταπής. Και στον βορρά στα live να τα σπάνε με του πιν τα skills. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Τι κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Οπα. Να τα πω στα βγουν ένα-ένα. Τα σχόλια τα πικρόχολα τους hater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μάγκα πως. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας. Φέρνουν έξανα την εποχή του ραπ και της μπίρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα αρχίδια μου σε γράφω εγώ, δεν γλύφω κόλους. Όποιος γουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήθες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Οι αλήτες δεν είναι μόδα, είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν γούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μάγκα τσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χώνουνε ρήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα b-boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης. Οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο δρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Voilà, donc c'était Kylapé. Alors, le titre est un petit peu difficile à dire, je vais essayer de vous le décrypter. C'est A.TH, A.LH.T.
Grec.hs. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que le propos est grec, donc je ne parle pas grec, donc je ne sais pas ce dont parle la chanson. Mais voilà, ça fait partie des chansons que j'avais découvertes au moment de sa mort, voilà, qui m'avait un petit peu marqué, donc j'avais voulu vous en faire profiter. On va repartir tout de suite avec Thomas qui en fait n'avait pas tout à fait fini sa chronique de, des infos de la semaine, mais qui du coup va pouvoir nous permettre de faire la transition avec Steven après.
Exactement, oui. J'en avais une avant-dernière, même si la dernière, ça sera plutôt une passe décisive pour Steven. L'avant-dernière, c'est Serge Grouard qui relance le débat sur l'arrivée de migrants et de SDF. Parce que, comme vous étiez certainement au courant, il y a à peu près une dizaine de jours, le maire d'Orléans avait annoncé que le centre-ville allait être rallumé la nuit après une longue période au cours de laquelle toutes les rues en fait, du centre-ville étaient complètement éteintes, ce qui donnait un peu un sentiment désagréable pour nombre de personnes.
Mais c'est un sujet difficile parce que moi, en tant qu'écologiste, je suis pour qu'on éteigne les éclairages publics la nuit, et en tant que féministe, je suis pour que les femmes se sentent en sécurité quand elles rentrent chez elles le soir. Donc c'est compliqué.
Ouais, mais je sais pas si toi-même ou si toi, Steven, vous le ressentiez, mais moi-même, quand je me baladais, pourtant je suis un homme, je me sentais vraiment pas à l'aise
sécurité,
pour le coup, en sécurité. Alors, c'est, encore une fois, c'est un sentiment parce qu'il n'y a pas de, il n'y avait pas d'études qui montraient qu'il y avait une augmentation de la délinquance ou des actes en fait violents par ce biais-là. Mais c'est vrai que on se sentait pas forcément à l'aise. Bref, il y avait eu un forum de quartier au cours duquel les habitants avaient émis le souhait que les lumières soient rallumées et anticipant finalement cette demande, la ville avait annoncé au cours de cette réunion que l'éclairage allait être rallumé, notamment, donc pour enlever ce sentiment désagréable pour les habitants. Annonce qui avait été très appréciée, et jusque-là, on se disait que ça allait s'arrêter là. Sauf que mercredi dernier, sur la chaîne RMC, la chaîne d'info RMC, eh bien, tout simplement, il a indiqué que la raison de sa décision était également motivée par un autre fait, à savoir les migrants et les SDF. Voilà, en gros le maire d'Orléans en fait indiquait que on relatait une présence accrue selon lui donc justement de migrants et de SDF dans les rues. Il disait ce n'est pas ma seule raison de rallumer, cette phrase polarise le débat, mais oui, c'est une des raisons que je lisais dans les pétitions et mails qu'on m'envoyait pour que je remette l'éclairage. Il y a tout un panel d'invectives, agressions, il y a eu des campements sauvages devant la mairie, le musée des Beaux-Arts, la région, beaucoup de femmes étaient inquiètes, justifie-t-il. Voilà. Donc voilà, il faisait référence aussi, notamment, ça c'est ce que l'article de la République du Centre précise, il faisait référence aux SAS régionaux d'accueil mis en place dans les régions pour accueillir les migrants et les personnes sans domicile fixe, ce qui servait à désengorger l'Île-de-France qui était saturée. Donc voilà, et donc le maire d'Orléans a rappelé en fin de compte qu'il y avait aussi cette raison qui l'avait poussé à prendre la décision.
C'est dingue comme quoi le féminisme ça concerne les gens de droite que quand ça peut faire chier les noirs et les arabes.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
Ouais.
Aka Marguerite Stern, ce genre de personne.
Ah ben je me garderai bien de donner moi-même mon opinion par rapport à cela, mais voilà, toujours est-il que voilà. je n'en dirai pas plus. Okay. Mais en tout cas c'est vrai qu'on est un petit peu surpris quoi. Il y avait peut-être pas forcément besoin en fait de rajouter cela quoi.
C'est presque une erreur de communication selon moi, parce que même si jamais il avait ça en tête, il aurait très bien pu ne rien dire et passer pour quelqu'un de plus mesuré que pourquoi il passe à l'heure actuelle.
Ouais, voilà. Donc voilà pour la petite info supplémentaire, donc qui était relatée donc par nos confrères de la République du Centre. Et enfin, on va conclure sur une dernière information, à savoir l'arrivée ce samedi d'un député LFI qui venait présenter son film. Et je te laisse la main. Steven.
Je te remercie beaucoup. Petit jingle ou pas du tout?
On peut se mettre un petit jingle?
Allez, vas-y.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Et oui, effectivement, dans le cadre d'une collecte de fonds du collectif Urgence Palestine Orléans, le député Émeric Caron est venu présenter son film Gaza depuis le 7 octobre à la salle polyvalente Eiffel. Le but de la collecte de fonds était de financer l'installation d'un hôpital gonflable au sein de Gaza. J'ai donc pu demander au député insoumis pourquoi il a accepté l'invitation à ce ciné-débat.
Je suis venu ici parce que le film Gaza depuis 7 octobre y était projeté et on m'a demandé si je pouvais apporter un éclairage sur sa fabrication et sur la situation à Gaza depuis un an. Et donc j'étais ravi de le faire parce que je pense qu'il faut absolument qu'on parle de la situation là-bas, qu'on en parle le plus possible et qu'on incite les gens à le faire. Donc si je peux y contribuer, c'est absolument essentiel. On ne doit absolument pas rester silencieux, on doit tous se mobiliser, on doit tous essayer de voir ce qu'on peut faire tout simplement pour alerter encore chaque fois sur cette situation incroyable. C'est-à-dire que c'est le plus grand drame humanitaire. On doit alerter sur ce qui se passe à Gaza et qui est le plus grand drame humanitaire du 21e siècle tout simplement, avec un degré de mort qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Donc c'est pour ça que c'est absolument important d'être là.
Et ce film, il a fait l'objet d'une diffusion à l'Assemblée nationale le 29 mai dernier. Il revient sur les 8 premiers mois du génocide des Gazaouis depuis le 8 octobre 2023. Avant de commencer la projection, il nous a dit ces mots. Ce film, il est conçu pour ne pas être regardable.
Pas regardable ? Mais qu'est-ce que tu as pensé du film alors ?
Eh bien, il avait raison. Si vous suivez le conflit depuis plus d'un an, les images vous seront probablement familières, hein, mais l'accumulation des images pendant plus d'une heure rend le film dur à regarder. Hein. Les images qui défilent donnent l'impression d'une boucle horrifique qui revient chaque jour. Le film, il commence sur les images d'un enfant ayant survécu de peu à un bombardement. Des images d'enfants blessés ou tués s'enchaînent. Y a-t-il une raison pour que des enfants meurent ? Demande un médecin. Au début, deux couleurs prédominent l'écran, le noir et le rouge. Le noir de la suie et le rouge du sang. Puis, quand la poussière retombe, tout devient blanc. Seul le rouge reste. Le sang est présent à chaque instant, durant chaque scène. Quand retentit un bombardement, tout s'arrête. Les voix deviennent muettes, les respirations se coupent dans l'attente de la fin des explosions. S'ils ne sont pas tués, les Gazaouis se mettent alors à fuir. Dans la salle, le public assiste à l'impuissance des pompiers et des médecins, parfois en larmes, toujours démunis. Au 30 octobre 2023, il est estimé à 3200 enfants avaient été tués ou déclarés disparus. Le mois de novembre 2023 arrive. Les Gazaouis cherchent des enfants sous les décombres. Le sang est toujours présent comme un fil conducteur de ce drame. Les forces israéliennes n'ont aucun intérêt à la paix. Ils méprisent les drapeaux blancs. Ce qu'ils cherchent, ce n'est ni une vengeance, ni une conquête. Ils ne sont motivés que par le sang. Ils l'appellent, le célèbrent et le font couler. Est-ce un rêve ou une réalité ? Demande une petite fille. La question mérite d'être posée. Comment peuvent se produire autant d'actes inhumains ou dégradants sans que le monde ne se sente obligé d'intervenir ? Comment le monde peut accepter qu'un père dise adieu à sa fille en quittant ce qui reste d'un hôpital ? Chaque vie sauvée devient un miracle célébré. Mais très vite, si les bombes ou l'armée ne tuent pas les Palestiniens, c'est la famine qui va les emporter. La réalité, c'est que rien n'est épargné, ni les hôpitaux, ni les écoles. Les militaires israéliens clament « c'est notre plage », derrière une étendue de ruines. Cette phrase, déclarée par un militaire israélien, résume la logique coloniale de l'État d'Israël. « Chers Gazaouis, vous ne valez pas cher ». Les mois se suivent et les images continuent de défiler. Le peuple palestinien fait preuve d'une force absolument admirable. Un homme souhaite pour une petite fille ayant fui le nord de la bande de Gaza. Il lui dit ces mots « j'espère que ta mère pourra revenir après la guerre ». Le public se demande bien où est-ce qu'elle va revenir. Dans la salle, certaines personnes détournent le regard, d'autres gorges serrées laissent échapper un soupir, quand d'autres encore fondent en larmes et quittent la salle. Dans le monde, c'est la propagande israélienne qui défile. Il n'y a pas de population innocente à Gaza, hurle une avocate franco-israélienne sur les plateaux télé. Un civil non impliqué n'est pas innocent pour autant, affirme un autre représentant du gouvernement israélien. Benjamin Netanyahou et ses sbires empêchent l'accès à l'aide humanitaire malgré les consignes de la Cour internationale de justice. Pendant que des enfants crient « je ne veux pas mourir », d'autres décident d'écrire leur nom sur leur peau pour être identifiés lorsque leur corps sera retrouvé. Cela fait maintenant un an que les enfants sont privés d'enfance. Les mois défilent et tous espèrent que le film s'arrête. Le mot « génocide » mettra du temps à être prononcé par les médias. Parce que le public l'a compris depuis bien longtemps, ils assistent à un génocide. Pendant la projection, une question m'est venue à l'esprit. Et le premier ministre de l'État israélien dit vouloir gagner. Mais contre quoi ? Contre qui ? Alors j'ai donc posé la question à Aymeric Caron.
La deuxième question que vous me posez, c'est Netanyahou, ce qu'il y gagne ? Il ne gagne strictement rien. Les Israéliens n'y gagnent strictement rien, puisque Netanyahou les met encore plus en danger. il hypothèque encore plus les chances de paix, donc de la possibilité que deux États vivent pacifiquement côte à côte. Ce que fait Netanyahu, c'est qu'il poursuit un projet complètement fou, celui d'un grand Israël, celui d'Israël qui considérerait que les Palestiniens n'ont pas le droit d'avoir leur propre territoire, d'avoir des libertés pleines et ainsi de suite. Et surtout, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il prolonge sa durée de vie au pouvoir par cette guerre absolument immonde, puisqu'il est visé par d'énormes problèmes judiciaires. Et tant que les massacres continuent, eh ben, il n'est pas ennuyé par la justice de son pays.
Mais le député Éric Caron n'était pas le seul invité de cette journée.
C'est ça. À côté d'Éric Caron, on avait le docteur Mehdi El Malali, qui était présent. Mélanie, excusez-moi. Qui était présent pour témoigner de son vécu dans la bande de Gaza. C'est un médecin qui revenait de Gaza suite à une mission humanitaire de 3 semaines, où il est venu transmettre ce message des Gazaouis ne nous oubliez pas. Après la succession d'horreurs auxquelles j'ai assisté, j'avais plusieurs questions qui me brûlaient les lèvres. J'ai donc pu discuter avec lui et je vous laisse écouter un petit peu notre échange.
Je suis resté trois semaines au cours du mois de juillet, donc effectivement avec l'ONG Palmed. Donc le but était d'être là en soutien aux équipes locales. Je suis médecin urgentiste, médecin humanitaire, donc je travaille avec plusieurs ONG. J'ai travaillé dans plusieurs pays. Où il y a des crises humanitaires et voilà, Gaza en faisait partie et j'ai pu apporter mon soutien comme j'ai pu au service des urgences et en réanimation. Et effectivement, on a pu voir la violence un peu des blessures, la violence de ce que peuvent avoir les victimes là-bas, avec un afflux massif de patients en permanence. Et comme je disais, je tire mon chapeau aux soignants qui en fait sont là depuis octobre, qui sont vraiment sur le pied de guerre pour continuer à prendre soin des patients sans relâche et sans faiblir.
Et pourquoi 3 semaines? C'était le temps d'une mission, c'est ça?
Ouais, alors c'est les missions dans les contextes un peu difficiles comme celui de Gaza, c'est des missions qui vont être assez courtes. 3 semaines, ça reste une mission qui est courte, mais en termes d'intensité, au final, on travaille souvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui fait que 3 semaines, c'est déjà parfois un peu beaucoup. Mais c'est pas des grandes missions comme on peut faire dans d'autres pays humanitaires, quoi.
Et pendant la projection du film, je vous ai un peu regardé, j'ai vu que ça vous avait quand même touché pas mal, donc je voulais savoir si ces images, c'était ce que vous aviez vécu pendant 3 semaines, ou si c'est vraiment, ce qu'on a vu, c'est vraiment comme disait Émeric Caron, c'est rien en fait par rapport à ce qui se passe.
En fait, ce film, il nous donne un peu une image de ce que ça peut être. Après, comme il l'a très bien dit, il y a des choses qui sont encore pires, qui n'ont pas été montrées et qu'on a pu voir sur place. Donc la violence, le film malheureusement ne montre pas toute cette violence-là. La difficulté, c'est de le vivre, en direct, j'ai envie de dire. C'est vrai que ces images-là me font rappeler un peu cette mission-là et c'est vrai que ça a été des moments en tant qu'être humain, c'est assez difficile à vivre. On essaie de toujours rester dans son rôle de médecin, mais parfois c'est difficile de mettre de côté totalement les émotions.
Et justement, comment vous avez fait, quotidiennement pendant ces 3 semaines et même après en fait, aujourd'hui comment ça se passe, dans quel état d'esprit vous êtes en tant que médecin face à ce qui se passe là-bas et vous personnellement, parce que tout à l'heure vous avez parlé du message et des Gazaouis, mais vous personnellement, qu'est-ce que vous en avez, qu'est-ce qui reste en fait?
Pour parler de la vie sur place, on dormait à l'hôpital, on a été très très bien accueillis par les soignants qui ont pris soin de nous pendant toute la mission. Ils ont l'art et la manière de rendre la mission facile, juste en discutant avec nous, en essayant de rigoler avec nous, même dans les moments les plus durs. Donc ça, c'est un gros chapeau à eux. Après, pour ce qui est de ça reste une mission qui laisse des marques. Après, moi, je suis médecin humanitaire, donc J'ai fait plusieurs autres terrains humanitaires, mais ça reste la mission la plus dure jusqu'à maintenant. Il y a clairement un avant, un après. On se pose des questions sur ce qu'on a vu, sur faire le bilan. Comme je dis, on reste un être humain derrière, au-delà du médecin. Il faut faire le travail sur soi-même, se dire que voilà, c'est important d'en parler. On souhaite que tout cela s'arrête pour des raisons humaines et humanistes. Et quand on est médecin humanitaire, on ne peut souhaiter que la fin de la guerre.
Et une dernière question, c'est sur la question des moyens. Là, aujourd'hui, il y a une collecte de fonds pour un hôpital gonflable. Mais en termes de moyens, ça se passait comment? Même pour vous, en tant que médecin, est-ce que vous aviez... J'imagine que la réponse sera non, mais à quel point, est-ce que vous pouvez expliquer à quel point la situation est catastrophique en termes de moyens?
Oui, effectivement, on souffre de manque de moyens sur tous les plans, que ce soit humain, de toute façon, sur le plan des médicaments, du matériel, on a eu besoin de tout. On arrive à faire avec ce qui est présent sur ce qui est disponible à l'hôpital. Alors le grand manque, ça a été surtout de la pédiatrie. Donc on a parfois utilisé du matériel adulte pour des enfants. Et voilà, j'ai envie de dire que oui, il y a un manque de tout. Comment on s'organise dans ces conditions-là? Alors il y a des systèmes D. Il y a surtout aussi les soignants qui ont l'habitude de faire ça parce que ça fait plusieurs mois qu'ils font ça. Donc on apprend aussi d'eux beaucoup. Après, le but, c'est d'essayer de trouver les meilleures alternatives pour pouvoir traiter les malades. Donc on va choisir un autre médicament, on va peut-être choisir, j'ai envie de dire, un matériel qui est peut-être pas adapté, mais on va essayer de prendre celui qui est le plus adapté pour le patient. Et voilà, c'est un peu de l'adaptation à chaque fois. Mais clairement, le manque de moyens, il est beaucoup trop important, et on aurait besoin de recevoir beaucoup plus de matériel médical. Donc effectivement.
Je redoute un peu de poser la question, mais est-ce que vous avez été confronté justement à cause de cette situation, du manque de moyens, à des personnes qui ne pouvaient pas être prises en charge?
Oui, vous dites des personnes qui ont été dont j'ai pas pu prendre en charge parce que par manque de moyens. Oui, effectivement. Oui. Il y a eu des enfants qui par défaut de place en réanimation ont pas pu être surveillés de façon correcte, et j'ai toujours et je pense à cet enfant que malheureusement on n'a pas pu mettre en réanimation et qui est finalement décédé par faute de place. Donc oui, clairement, le manque de moyens, il y a un retentissement réel, et ça en coûte la vie à beaucoup de patients.
Il y a des choix qui sont faits?
Non, il y a pas de choix. On essaie de traiter, on traite tout le monde. La population Gazaoui est assez jeune, donc au final, toutes les vies humaines se valent. On ne fait pas de choix. Le but, c'est de faire le maximum avec ce qu'on a, et après, malheureusement, on ne contrôle pas tout.
J'imagine qu'un tel événement a suscité des contestations.
Précisément, de l'autre côté de la rue se tenait un rassemblement de fachos contre la journée de soutien au peuple palestinien. En baladant sur le site internet de Reconquête, parce que oui, je me balade sur le site internet de Reconquête.
T'as trop de temps libre.
Non, oui, il faut que j'arrête. J'ai constaté que les fachos ont déposé une demande d'annulation de ce rassemblement, qui visiblement a été déposée auprès de la ville d'Orléans, et qui visiblement la ville d'Orléans n'en a rien fait. Bon, donc moralité, ça fait toujours plaisir de mettre le seum au gros raciste. Hein. Et cette mobilisation en soutien à un génocide montre clairement que ces gens sont plus racistes avant d'être humains.
Merci à toi Steven, merci beaucoup pour cette chronique. Juste avant de se quitter, on va se faire un petit point sur les prochaines actualités de la Rédac Pop, le magazine en ligne de Radio Campus Orléans. Dis-moi Thomas, qu'est-ce que tu as dans les tiroirs?
Alors dans les tiroirs, alors déjà avant de citer les tiroirs, alors je pense pas qu'il y a encore des places actuellement, mais on avait quand même fait un petit papier pour annoncer le concert de la diva de la musique africaine Angélique Kidjo. après le sommet de la francophonie. Donc elle est ce soir au Théâtre d'Orléans avec ses 5 Grammy Awards au bras, mine de rien, à partir de 20h30. Donc si jamais il reste encore une ou deux places et que vous êtes proche du Théâtre d'Orléans, vous avez encore 35 minutes pour vous y rendre. Il en restait encore quelques-unes il y a quelques jours, donc sait-on jamais, hein, après tout. Hein, je balance au cas où, hein, voilà. Mais sinon, pour ce qui est à attendre pour la suite du programme de la Redac Pop, eh bien, il y aura notamment ce compte-rendu du passage du député LFI Aymeric Caron à Orléans pour présenter son film Gaza depuis le 7 octobre. C'est toi qui t'en charges, Steven. Ça fera certainement aussi l'objet d'une émission, alors peut-être pas ce samedi parce qu'on va peut-être manquer de temps pour la montée, mais on essaiera de la faire pour le samedi d'après. On a aussi un autre article de ta part, Steven, sur la conférence de Sébastien Ledoux, historien de la mémoire, qui s'est tenu au Cercil le 24 septembre dernier.
Une super rencontre, j'ai pu l'interviewer à l'issue de sa présentation de son travail pour Documentation Photographiée, une revue qui part des photographies pour raconter une histoire. Et donc il a pu faire un papier dessus et c'était ultra intéressant. J'en ai fait un compte-rendu qui sera bientôt publié et puis il y a une interview en exclusivité.
Waouh, exclusivité, ouais, exclusive Radio Campus Orléans. On a aussi Fanny, une de nos nouvelles contributrices pour la Redac Pop, qui nous prépare un papier sur la cité loiretaine qui appartient au département. Pour être tout à fait précis, on va le compléter avec un papier que moi-même je suis en train de préparer sur les nouvelles archives départementales, également un tout nouveau bâtiment flambant neuf pour accueillir donc ces formidables archives et pour pouvoir être consulté à loisir par les gens, les curieux, ceux qui ont envie de se renseigner, que ce soit sur leurs histoires personnelles ou sur les histoires plus globales de ce territoire qu'est le Loiret. Donc on vous prépare également cela prochainement. Fernanda, une autre de nos nouvelles contributrices de cette année, est allée à la découverte de la double exposition naturaliste qui s'est tenue récemment au MOB, le Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement. Une fresque de Loire proposée par le peintre Denis Chavigny, ainsi qu'un voyage au cœur des eaux douces proposé par le photographe Bruno Guénard. Tout cela pour une double exposition intitulée « De la Loire à l'océan » qui était en lien avec la fête de la science. Donc vous retrouverez les interviews de ces deux artistes ainsi qu'un compte-rendu de ce que Fernanda a pensé de cette double exposition. Et enfin, pour terminer, un papier sur une conférence polémique de France Souveraineté se prépare tout doucement. Une conférence qui s'est tenue récemment à la salle du Lion de Saint-Marc d'Orléans et qui mettait en avant un intervenant pro-russe du nom de Xavier Moreau. Un de nos membres l'a suivi.
D'accord.
Et notamment va interroger aussi une universitaire spécialiste des questions ukrainiennes pour pouvoir un peu débunker ce qui a pu être dit au cours de cette conférence. Voilà.
Ok, bah formidable. Bah, on attend tout ça avec impatience. On reste branché. Du coup, c'était sur le résumé pour la Redac Pop, le magazine d'information de Radio Campus Orléans, qui est animé par Thomas Doré et par nombre de collaborateurs et de collaboratrices. Je vous laisse aller checker tout ça sur Internet. En attendant, on va se quitter sur un petit maloya. Alors je ne sais pas si vous connaissez le maloya, c'est la musique traditionnelle de La Réunion, c'est une musique d'esclave, et je vous propose d'écouter à l'instant, pour clore à bâton rompu, merci à toi Thomas,
merci à toi Victor,
je t'en prie, t'as fait un super travail,
merci
bravo beaucoup. Monsieur animateur,
je
c'est bon.
Ne suis pas monsieur Hassan, je suis Victor
Menebo. Oui, je m'en suis rendu compte après, en fait il y a eu un moment dans ma tête où je ne sais pas, j'ai confondu.
Donc, on s'écoute David Sicard, Maloya Cabossé sur son album Cœur Marron.
Te lo vi la linea maya, te lo ni pugade. Te lo vi de ouvert maya, te lo vi rentré. Ça coulait, la diarousis la pas grand chose, mon noir, qui vient manger bousser. Et la découcombe, la râle, malouille en capoussé, ça l'arrive tout seul.
za te da ulazej. Rale malo ja ga busi, ke kultik za ti so, kogla me na lidvon upor. Rale malo ja ga busi, za te rala u luen, lao za te so a u bien. Rale malo ja ga busi, za te da u lutan. Tel y arrive, tel y ça va. Tel t'es fini manger, baya. Tel ou arrête pour aller. Tel ou assort dans la case, baya. Tel la nuit la tombée.